entrée du Mbujimayi au Kassai Oriental. J'ai refusé totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Le programme de crédit du Fonds monétaire international FMI vient d'être évalué en RDC. Estimant que des progrès ont été accomplis sur le plan économique et financier par le gouvernement congolais, le FMI s'est dit prêt à redémarrer d'autres programmes d'aide et de coopération avec la République démocratique du Congo. Cependant, l'institution de Bretton Woods évoque dans cette évaluation le manque de transparence dans certains accords miniers. Nous en parlons dans ce deuxième numéro de Parole aux auditeurs. Merci à vous tous qui souhaitez participer à ce débat avec comme question principale, que proposez-vous pour une transparence dans la gestion des contrats miniers signés par la RDC et les sociétés internationales? Notre standard est déjà ouvert, composez le 081 890 6315 pour intervenir et déposer également vos commentaires sur notre page Facebook. Titi Poutou, Willem Lungamba et Pierrot Elameji réalisent cette émission et J.R. Lungembo vous la présente et coordonne sous la supervision de Nicole Ngaka. Excellente condition d'écoute à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons dans ce studio professeur Dona Kapanda, qui est le coordonnateur de CTCPM, cellule technique et coordination, de cellule technique de coordination et de planification minière. Bonjour professeur.
Bonjour monsieur les journalistes.
Voilà, nous avons également en ligne Sylvain qui est à Bounia, Théodore à Mbujimayi et Franck qui est à Vienne, en Autriche. Voilà, donc nous vous accorderons la parole dans quelques instants. Il est temps pour nous de planter les décors avec notre invité, professeur. L'évaluation du programme de crédit de FMI met en cause notamment un contrat minier conclu par la RDC avec une compagnie américaine. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus?
Il faut quand même reconnaître que il faut quand même que j'explique quand même ce que c'est un contrat minier, parce que il y a nos auditeurs qui n'ont jamais compris ce que c'est un contrat minier. Il faut dire que tout a commencé vers les années 80, et lorsque toutes nos sociétés minières, les grandes sociétés de l'État, et ont connu des problèmes très très sérieux suite à la vétusté de l'outil de production, sous-investissement, la mégestion à cette époque, vous vous souvenez très bien, et des destructions méchantes de l'outil avec plusieurs guerres que nous avons connues. Alors, juste avant les codes miniers, c'était vers les années 2000, le gouvernement a autorisé toutes ces sociétés minières et les entreprises publiques à signer des contrats avec des tierces pour ramener investissement. Donc il fallait choisir des sociétés qui présentaient de capacités techniques et financières. Alors maintenant, en 2002, lors de Sun City, il était question maintenant qu'on puisse réviter certains contrats, parce que la plupart des contrats avaient un caractère lyonnais. Donc ici nous avons des contrats qui sont signés à des sociétés et des conventions minières qui sont signées avec l'État congolais et lui-même. Donc lorsque nous parlons d'un contrat, c'est la volonté de cette société qui s'engage avec une autre pour se lier et exploiter une mine. Pourquoi on a fait cette révisitation? L'aventure est venue de là. Nous avons constaté qu'il y avait des sociétés, des partenaires qui se disaient qu'ils avaient de l'argent. Alors, ils n'avaient pas de l'argent. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils créent une société ensemble. Au lieu d'apporter de l'argent, mais ils vont sur la place boursière et ils jouent au ping-pong et ils gagnent. Mais la société, avec toute sa population, reste dans la pauvreté. C'est pourquoi vous avez vu la Gécamine, qui était très florissante, ça fait les 450 000 tonnes. La Gécamine est restée dans les 20 000 tonnes. Donc, c'est ça l'idée d'un contrat minier. Alors, pour la question que vous venez de poser, ça dit qu'au niveau du ministère des Mines, nous avons cette transparence. Regardez sur les sites du ministère des Mines, tous les contrats sont affichés. Tous les contrats sont affichés, même FMI, que ce soit Banque mondiale, ils nous suivent bien. C'était une obligation que nous avons suivi. C'était une obligation. Mais nous avons été quand même surpris qu'un contrat n'a pas été affiché, les contrats et le comité. Or, les contrats, si j'ai les mêmes les livres ici, la finalisation des sous avons fait comme révisitation, les résultats sont là, c'est un contrat qui a été révisité. Mais il s'est fait que, dans la suite continue, il y a eu d'un PV les transferts des sessions de la GECAMINE à une autre. Donc ça s'est fait sur base d'un PV. Alors, on ne nous a jamais demandé d'afficher un PV. Alors c'est ça le problème. Donc la Banque mondiale, quand la FMI, quand elle a appris qu'il y avait ces PV, mais pour eux, ils ont appris que nous avons un contrat qu'on a caché, mais on n'a rien caché, nous sommes très transparents.
Voilà, la transparence, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Dans cette évaluation, il est aussi évoqué le manque de transparence, parce que vous venez de le dire. Cela relance encore les débats sur la révisitation des contrats que nous avons connus, amorcés par le gouvernement. Où en est-on?
Oui, pour la révisitation des contrats, on suppose que tout a été fait. C'est-à-dire, au début, il y avait d'abord la révisitation. Après la révisitation, c'était au niveau des experts du ministère et des experts du gouvernement, en quelque sorte. On avait regroupé les contrats des sociétés en trois groupes. Et il y a des groupes qu'on devait totalement résilier, les contrats étaient faits, et à renégocier, et ceux-là qui ont passé l'examen à 50 sur 50. Alors, maintenant, on est passé à la renégociation. C'est le cas, par exemple, de Tenke Fungurume et les autres. Et là, c'est un panel de ministres, en 2006, qui ont pu discuter avec tous ces gens-là. Il y a aussi des contrats qui sont passés, et d'autres qui sont résiliés, comme contrat KMT avec Face Quantum. Et en dernière minute, nous sommes arrivés à la finalisation, et on a finalisé avec des contrats ou bien des conventions au Banro, même Tenke Fungurume, qui sont réconformes. Il faut quand même reconnaître comme résultat, il y a eu au moins 34 millions de dollars qui devaient être payés en guise de pas de porte. Et il y a une bonne avancée aussi, il y avait des sociétés où la participation de l'État ou bien la participation de la GECAMINE ou d'une société de l'État était minime, les participations ont été remontées. Et puis un fait important aussi, c'était l'engagement de toutes ces sociétés à la vie sociale même du travailleur, c'est-à-dire la vie communautaire. Ils se sont engagés et enfin, je dois vous dire que c'était quand même un très très bon résultat et même sur le terrain, on le remarque qu'il y a des sociétés qui respectent. Évidemment, il y a d'autres sociétés pour lesquelles nous attendons encore, mais qui n'ont pas encore finalisé leurs études de faisabilité.
Voilà, avant d'accorder la parole à nos auditeurs, il y a Sylvain, comme je l'ai dit, qui est à Bounia, Théodore Ambujima et Richard à Kinshasa. Permettez-moi, professeur, de vous poser encore une question. Cette décennie est très marquée par la signature joint venture, les accords des contrats d'exploitation mixte entre des sociétés minières congolaises et des sociétés internationales. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée aujourd'hui si ces joint venture a marché, où on peut dire que le résultat n'est pas celui escompté par le gouvernement congolais?
Non. Je vais vous dire quand même quelque chose qui est important. L'investissement minier, c'est quelque chose qui est très très difficile. C'est-à-dire que, normalement, nos sociétés ont eu de l'argent vers les époques 1975. La GECAMINE était dans son apogée, presque toutes les sociétés, Okimo et tout ça. C'est à ce moment-là que ces sociétés devaient investir dans la recherche, même dans l'augmentation de l'outil de production. On ne l'a pas fait. Vous savez, à l'époque de Mobutu, il y avait une dictature très atroce. Et Mobutu contrôlait toutes ces sociétés. Et c'est pourquoi, vers les années 80, ils sont tombés dans les cadences. Maintenant, avec les contrats signés, c'est vrai, n'eût été la révisitation des contrats, on serait toujours dans cette marasme. Mais la révisitation des contrats nous a aidés. Je vous donne un modèle. Le modèle, c'est la société Tenke Fungurume. Vous savez, bientôt, c'est une de grandes sociétés actuellement. Mais il faut toujours dire que les autres, parce que la GECAMINE, il ne faut pas la négliger, parce que c'est une société à 100%. Si nous avons Tenke Fungurume, la dividende ne viendra pas aujourd'hui, parce que dividende, c'est 20%, on ne l'aura pas aujourd'hui. Ils doivent d'abord rembourser l'investissement. Donc, tu vois la différence entre les contrats signés, toutes ces sociétés, l'État ne doit pas se retrouver maintenant c'est seulement dans les taxes et redevances. Mais les dividendes, c'est après les remboursements de tout l'argent qu'ils ont dépensé, c'est-à-dire l'achat de matériel et tout ça. Alors que si c'était la Gécamines, si c'est la Gécamines elle-même, là, l'État est à 100%. Et à ce moment-là, l'État va se retrouver facilement.
Voilà. Sylvain Etabounia, Théodore Amboujimaï, Richard à Kinshasa, nous allons vous accorder la parole tout de suite.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Sylvain, bonjour.
Bonjour J.R., mais bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi, bonjour à l'invité.
Voilà, bonjour à vous Sylvain. Vous avez souhaité intervenir dans cette émission. Que proposez-vous pour une transparence dans la gestion des contrats miniers signés par la RDC et les sociétés internationales?
Bien, J.R., d'abord, la première des choses que je devais vous dire, mais dire aussi à vos auditeurs, si j'ai souhaité intervenir, c'est tout simplement puisque nous avions délégué, n'est-ce pas, une étude de l'impact social des contrats miniers en Ituri, et le travail est en cours. Nous sommes en train de nous pencher sur la question des contrats miniers en Ituri, mais étudier leurs impacts, leur incidence sur les conditions sociales de la population, puisque tout contrat suppose un impact, une retombée sur la population. Et lorsque vous avez proposé le sujet, hier, j'ai été content. Et qu'est-ce que je veux dire? Je salue d'abord le professeur, votre invité, le coordinateur de la CPCPM. Et je suis très content de toutes les explications qu'il a données. Vous savez, pour la petite histoire, puisqu'on ne peut pas donner des propositions pour une gestion transparente des contrats miniers, si les auditeurs et nous-mêmes, nous ne nous efforçons pas à comprendre le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui dans le secteur minier. Vous savez, tout contrat minier, en réalité, doit d'abord révéler un sens moral des signataires, c'est-à-dire la moralité des signataires. Ça doit révéler aussi la compétence et la maîtrise du domaine. Ça, c'est la deuxième des choses. Mais aussi, ça doit révéler une projection dans l'avenir des avantages et inconvénients de ces contrats à celui permet de social de la population. Mais qu'est-ce que nous remarquons curieusement? Je crois que les contrats miniers au Congo sont signés dans des catimini, dans des petites chambrettes, et les experts sont écartés de tout couloir de transmission. Et ça, je pense que c'est quand même un problème. Sur le plan national, Monsieur Gère, vous serez d'accord avec moi que ceux qui signent ces contrats ou ceux qui négocient ces contrats, vous vous souviendrez, lorsque on a installé les institutions politiques de 2006, le ministre à l'époque en charge des hydrocarbures, aujourd'hui ministre des communications et porte-parole du gouvernement. Vous avez vu ce qu'il a fait. Je descends sur ce qui concerne l'Ituri, puisque je suis ituri et j'interviens en partie de Bounia. En Ituri, nous avons au moins plus de 4 entreprises minières qui travaillent. Je cite l'AGK, il y a Moine Africa, il y a l'entreprise INI, et les Chinois et tous les charlatans miniers qui sont ici. Ils ont envahi le secteur minier, et demain, à la conclusion de mon travail, je vous dirai, il y a une guerre minière en Ituri, puisque ça doit révéler ça. Toutes ces entreprises exploitent l'or de l'Ituri et les matières pressées de l'Ituri sans pouvoir penser à ce qu'on appelle la retombée sociale. On se pose une question, est-ce qu'ils sont partenaires à qui? Je doute même de leur partenariat entre les gouvernements. Mais qu'est-ce que je vais proposer, JR?
Oui, allez-y.
La chose est simple. La première des choses, il faut qu'on implique la population dans ces contrats. Si les contrats étaient signés sans impliquer la population, on doit tout simplement radier ces contrats pour les renouveler. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, je crois que tous les contrats qui sont déséquilibrés doivent pouvoir être rééquilibrés. Et d'autres contrats même être annulés, puisque demain, ça va créer des conflits sociaux. Et je ne vous ai pas dit, à Bounia, en Ituri, lorsque une entreprise telle que INI, Engineering Innovation, était dans les entreprises de construction de routes, s'est précipité pour commencer à exploiter l'or. Il y a eu des conflits, des tensions sociales en Djougou. Et tout le monde était avec garder les silences. Mais nous, nous disons ceci, des précipitations en matière des contrats miniers doivent arrêter pour projeter une gestion transparente à ces contrats-là.
Merci beaucoup.
Et plus souvent, nous assistons à des précipitations puisqu'on a découvert un carré minier quelque part et on y lance sans pour autant analyser les retombées sociales. Je crois que c'est un problème. Je vais terminer à dire.
Oui, allez-y rapidement parce qu'il y a Théodore qui attend et Richard également.
Je termine en disant que si je proposerai à la radio Capi, à la fin de ma recherche, je crois que c'est d'ici le 5 janvier que je sors ma recherche, sur le titre de l'impact social des contrats miniers en Ituri, et je vais le proposer aussi au gouvernement congolais.
Oui, mais
j'ai comme impression que ces contrats
oui, vont oui, Sylvain, je crois que ça tombe à pic, comme nous avons comme invité professeur Dona, qui est le coordonnateur de la cellule technique de coordination et planification minière. Je crois que ces documents-là tomberont entre ses mains et ça pourrait peut-être suivre le cours normal. Merci beaucoup, hein, Sylvain, d'avoir appelé. Et nous prenons Théodore, qui est en Bujimaï. Bonjour, Théodore.
Bonjour,
Jean. Oui, Théodore, je crois que vous avez suivi Sylvain qui a évoqué la guerre minière qu'on observe en Ituri. Et il a proposé l'implication de la population dans la signature des contrats. Et les contrats déséquilibrés doivent être rééquilibrés et éviter aussi la précipitation des contrats. Dès qu'on découvre un carré minier, on se précipite pour donner les autorisations d'exploitation. Voilà au moins des propositions. Qu'est-ce que vous vous proposez à votre tour, Théodore, pour qu'il y ait une transparence dans la gestion des contrats miniers signés par la RDC et les sociétés internationales.
Ok, merci bien pour la parole. Avant de passer à ma proposition, vous savez, le FMI veut bien ouvrir des voies avec l'État congolais. À cela, le FMI cherche à avoir la transparence dans la gestion de la plupart des contrats signés. Et la chose qui est donnée au FMI à avoir confiance pour répondre à faire des prêts à l'État congolais. Et vous savez, tout ce qu'il y a eu comme contrat sans progrès, à cause, par exemple, de fautes d'ouverture dans la gestion des sociétés, l'FMI n'a pas eu vraiment confiance dans cela. Et c'est ainsi qu'avant de passer à ma proposition, j'ai déposé la question à notre invité.
Oui, allez-y.
Et qu'en est-il du contrat signé avec les Canadiens à la NIBA? Parce que, vous savez, avec tous ceux qui a eu comme le PDG, le PAD de la NIBA qui sont succédés, il y a eu maintenant un Canadien, je crois que c'est un contrat bien signé. Mais depuis que ce contrat a été signé, bon, il n'y a pas vraiment l'impact social depuis que ce contrat a été signé. Alors qu'ils nous disent pourquoi cela c'est pas ainsi. Je propose, l'État doit tenir bien son état financier avec des preuves à l'appui pour permettre aux donateurs de continuer à fournir des capitaux dans des sociétés minières. S'il y a aussi des matières premières, on doit bien l'avoir, si nous sommes transparents, et puis les frais alloués des paiements des salaires des ouvriers et consorts, nous recevons cela, pas pour la production, mais à travers l'argent qu'on donne. C'est pas correct. Alors, ce que moi je demanderais, que l'État congolais, à partir de ces sociétés, puisse vraiment permettre l'FMI d'avoir clair dans la gestion des sociétés d'État et révisité par les contrats pour permettre au FMI aussi d'être remboursé dans l'avenir.
Dans l'avenir. Merci beaucoup, Théodore. Nous retenons que vous avez une inquiétude qui tourne autour d'une question. Hein. Qu'en est-il du contrat signé avec les Canadiens à la MIBA? Et vous proposez que l'État puisse bien tenir son état financier afin d'attirer davantage les prêts de FMI. Merci beaucoup, Théodore. Richard, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, J.R.
Voilà, bonjour
à notre invité, meilleurs voeux à tout le monde.
Merci, Richard. Vous avez la parole.
Merci. Alors, voici ma modeste contribution. Pour qu'il y ait transparence dans les contrats miniers, il faut, premièrement, que les contrats soient accessibles à tous. Il faut que tout le monde fasse le contenu. Il ne faut pas que ce soit le secret d'un groupe. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut que la comptabilité soit accessible à tous. Parce qu'on voit les minéraux partir, tout le monde voit, et la comptabilité aussi. Il ne faut pas que ce soit une comptabilité occulte. Troisièmement, il faut que le lot qui sort ait été suffisamment expertisé, c'est-à-dire une expertise minière et épicutique. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ce n'est pas normal qu'on apprenne par la presse que le lot que les Congolais ont envoyé en Chine a été revendu, donc le lot de 40 millions, revendu à 160 millions, comme brut encore. Vous voyez le manque à gagner ? Il ne faut pas aussi qu'on apprenne que le Sénégal, qui n'a pas de cuivre, a vendu le cuivre congolais raffiné au Congo 4 fois plus cher. Voilà. Donc, et enfin, il faut qu'on évite aussi d'exporter le brut. Nous sommes assez mûrs pour raffiner. On peut raffiner, envoyer le semi-raffiné ou ce qui est totalement raffiné. C'est ridicule d'envoyer le brut pour affamer le Congolais, parce que par rapport aux besoins du Congolais, lorsque l'argent du brut revient ici, et qui était d'ailleurs mal expertisé, vous avez par exemple 20 millions. Les besoins du Congolais s'élèvent à 80 millions. Qui va combler les 60 millions? C'est là où c'est ridicule d'aller s'endetter pour nourrir le Congolais et résoudre son problème. Donc, voilà ce que je voudrais. Il faut aussi que on évite l'interférence d'autres institutions. J'ai été renversé 1001 fois lorsque j'avais appris qu'un directeur du bureau du président, lors de l'exercice 2000-2006, était parti prendre l'argent de la SNE. Il est parti comme qui? Comptable de qui? Avec l'ordre de mission de qui? Voilà, c'est plus que ce qu'on dénonce contre Mobutu. C'est le Mobutisme sans Mobutu. Merci beaucoup.
Voilà, merci Richard d'avoir appelé. Nous allons prendre Nassibou avant de raccorder la parole à notre invité, Nassibou et Clément. Nassibou, vous êtes à Kindu, bonjour. Nassibou, vous êtes avec nous? Voilà, on parle Clément qui est en Boujimaï. Bonjour Clément.
Oui, bonjour JL, bonjour Anne.
Voilà, Clément, vous avez la parole. Vous avez suivi tour à tour Sylvain qui est à Bounia, Théodore en Boujimaï et Richard à Kinshasa. Que proposez-vous pour une transparence de la gestion des contrats miniers signés par la RDC et les sociétés internationales?
Moi, je voudrais seulement rappeler au peuple congolais l'hymne national, une strophe seulement, en disant que nous bâtirons le pays plus beau qu'il était auparavant. Et plus beau qu'il était auparavant, le peuple congolais et les sociétés minières congolaises vivaient et vibraient dans le monde. Mais aujourd'hui, avec la multiplicité et le terme beaucoup plus sophistiqué dans le Parlement et dans les différents ministères, nous constatons que nous allons de bas en bas et nous nous enfonçons sérieusement. Que faisait Mobutu et son gouvernement pour que les sociétés minières d'antan puissent durer et puissent vivre? Moi, je trouve qu'il y a une incompétence entre ceux qui veulent signer le contrat avec le Congo et ceux qui engagent le Congo à signer le contrat avec l'extérieur. C'est-à-dire quoi? Ce ministre est sorti, par exemple, d'un département quelconque, il est au ministère quelque part. Donc, sans pour autant connaître au fond et sans pour autant se rattacher aux gens qui sont expérimentés en la matière pour engager l'État, donc on se permet de pas faire n'importe quoi. Et ceux qui viennent de l'extérieur...
Oui, Clément, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes au courant de l'existence de la cellule technique de coordination et de planification minière qui existe au ministère de Mines?
Bien sûr, je suis au courant. C'est pourquoi je suis en train de critiquer cela hier. Pourquoi je critique ça? Parce que nous ne voyons pas la concrétisation de cette cellule-là. Et aujourd'hui, nous avons intégré le cas de la CIBA, ici à Mouchmaï. Il y a un contrat qui a été signé avec les Canadiens. Donc, sur le plan, donc en pratique.
Oui, oui. En fait, Théodore avait déjà avait fait mention.
Voilà,
c'est un des cas. Qu'est-ce que vous proposez, vous, personnellement, Clément?
Voilà, je voudrais qu'il y ait un peu un suivi correct de l'extérieur et de l'intérieur pour trouver un terrain d'accord avec qui on doit signer le contrat. Voilà le problème.
Merci beaucoup Clément. Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs.
Voilà Franck, vous êtes à Vienne en Autriche, vous avez suivi les uns et les autres, vous avez maintenant la parole.
Et je vous en prie pour la parole. Je crois que les Congolais avertis savent tous qu'il y a des lois qui doivent régir le quotidien de la vie des citoyens congolais et la vie des affaires sur l'économie congolaise. Et aussi en matière de contrats, il y a une loi dans notre constitution qui dit que tous les contrats signés avec l'extérieur doivent être avalisés par le Parlement. Alors maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est à ce niveau, là on se rend compte que parfois on vient nous demander de répondre aux questions qui avaient déjà été répondues sans l'aval des citoyens que nous sommes ou sans l'aval de ceux qui nous représentent. Mais c'est clair, quand on va signer des contrats en désordre, quand on ne tient pas compte des avantages du peuple, quand on tient d'abord compte de ses propres intérêts, c'est tout à fait normal qu'on arrive à toutes ces situations. Ça, c'est un. Des deux, nous savons que sur la liste de contrats miniers, il y a des contrats qui avaient été signés avant la constitution qui est en place, de 2006. Il y a des contrats qui avaient été signés lors du gouvernement de Cobal 1+4. Il y a des contrats qui ont été signés avec le gouvernement de 2006. Donc, quels sont les accords qui ont été respectés? On ne l'a jamais clairement dit aux citoyens. Mais quand on signe d'abord le contrat, sans tenir compte des avantages, des retombées de l'État congolais, c'est tout à fait normal qu'on arrive maintenant à des évaluations et surévaluations. Mais on ne doit pas se faire des illusions parce que ce multinational, il ne peut pas vous faire des dons ou il ne peut pas nous faire des dons. Donc, je crois que là, c'est à nos politiciens qui vont nous représenter sur ces négociations, c'est à nos députés de se montrer d'abord patriotes pour ne pas d'abord chercher leurs intérêts personnels au détriment des intérêts du peuple. Et quand nous avons encore un Parlement avec une majorité qui n'a pour priorité que les intérêts de leur cartel politicien ou quoi, donc ça devient difficile parce que là où l'intérêt suprême de la nation est en jeu, donc on en passe outre au profit de l'intérêt du groupe ou bien au profit de l'intérêt des citoyens.
Oui,
je crois que,
vous
comme
comprenez...
le docteur Richard venait de dire, on doit d'abord dire aux citoyens que nous voulons signer un contrat avec telle société. Donc on ne va pas le dire à tous les citoyens en cours de rue, mais il y a les députés. Et comment vous allez nous expliquer s'il y a des députés qui ne savent même pas quels sont les contrats signés avec telle société pour qu'elle retombe?
Voilà. Voilà, Franck, si on peut aller droit au but, qu'est-ce que vous proposez, vous, personnellement? Que les députés puissent être impliqués également en amont, avant qu'on signe des contrats?
Mais monsieur Gilles, c'est tout à fait clair. Le gouvernement ne peut pas s'engager tout seul pour de telles affaires sans engager le Parlement, parce que pour certains contrats, il faut l'aval du Parlement. Mais là, ça devient difficile. C'est quand le gouvernement s'engage, le Parlement n'avait jamais été associé. Qui dit Parlement voit la représentation du peuple, c'est le peuple qu'on associe directement.
Merci beaucoup.
Et quand le Parlement n'a pas été associé, on demande maintenant au peuple d'évaluer. Mais comment vous allez évaluer un contrat qui a été signé sans vous impliquer? C'est
voilà.
Ça devient difficile.
081
75. Pour certains contrats, le gouvernement s'engage.
Franck, on va accorder la parole à d'autres personnes également. Vous avez pris plus d'une minute. Nous rappelons à nos auditeurs qu'ils peuvent participer à ces débats. Nous avons dans ce studio professeur Donat, qui est notre invité. Il est le coordonnateur de la cellule technique de coordination et de planification minière. 081-890-6315.
Vous êtes jeune? Vous êtes curieux? Nous avons de l'énergie à partager ensemble tous les jours sur Radio Okapi. De 15 à 17 heures, c'est Total Énergie. 2 heures de musique, Actu People, emploi, environnement, nous ouvrons le dictionnaire dans J'aimerais savoir. Nous vous donnons aussi la parole dans Regard d'avenir, point de vue et portrait de jeunes. Chaque jour, jouez avec une question de connaissance générale. Pour mettre le feu de 15h à 17h sur Radio Okapi, Total Énergie, c'est l'énergie totale.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Oui, professeur, nous avons suivi tour à tour les auditeurs de partout. À Bounia, nous avons été avec Sylvain. Il y a Franck qui nous a appelé de l'Autriche. Et Clément Mbujimaï, Théodore dans la même ville que Clément. Mm-hmm. Et puis Richard à Kinshasa. Voilà, il y a pas mal d'inquiétudes.
Oui.
Si on peut d'abord commencer par l'inquiétude de Théodore, qui a été enchérie par Clément, sur le contrat signé entre les Canadiens pour le compte de la MIBA.
Mais il faut quand même, je puisse dire quelque chose qui est important ici.
Comme ça, vous allez revenir aussi sur les contrats miniers, comment ça procède, pour éclairer un peu la lenteur peut-être des auditeurs qui nous ont pris en cours.
Évidemment. On parle bien de contrats signés par la MIBA et avec une société canadienne sans la CITI. Donc, moi je suis du secteur. Je sais bien que la MIBA a des problèmes très 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 sérieux. La MIBA a contacté une société sud-africaine, des banques sud-africaines, pour recevoir de l'argent pour faire son exploitation. Parce que les problèmes, c'est lesquels? La MIBA actuellement est à peu près à zéro carat. À peu près. C'est-à-dire qu'ils font ce que moi j'appelle actuellement l'exploitation artisanale. Moi, je suis géologue. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai toujours dit aux amis que lorsque les diamants ou la richesse est dans les sous-sols, il ne faut pas la considérer comme étant une richesse. C'est lorsque vous l'exploitez, vous avez les diamants sur votre table, à ce moment-là, vous pouvez dire que je suis scandale géologique, je suis riche. Les cas de la MIBA, quand ils sont allés dans la société sud-africaine, mais on leur a posé bien la question, quelle est la valeur? Vous demandez 140 millions, mais quelle est la valeur de votre patrimoine? Mais c'est très difficile, c'est-à-dire que la MIBA n'avait jamais certifié ses réserves. Certifié, c'est quoi? C'est appeler une société témoin pour faire les sondages et évaluer la valeur. À ce moment-là, la banque peut s'engager à te donner l'argent et tu commences l'exploitation. Mais celui qui a parlé d'un contrat signé avec les Canadiens, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, c'est aussi un autre problème. C'est peut-être vrai et c'est peut-être aussi faux. Pourquoi? La loi, c'est la FMI et la Banque mondiale qui nous ont amenés à transformer toutes les sociétés d'entreprise publique en sociétés commerciales. Mais une société commerciale, elle n'a pas l'État à demander au ministre que je vais signer un contrat. Et ils signent le contrat eux-mêmes actuellement. Et c'est le problème que le ministre des Mines a maintenant. Eux, ils signent le contrat et la FMI vient poser la question au ministre. Il y a eu transaction sur tel contrat, mais lui, il n'est pas au courant. Parce que c'est une société commerciale qui doit faire
ses contrats avec les autres.
Ça nous pose problème. Avant, oui. Mais actuellement, il faut considérer toutes les entreprises de l'État comme des sociétés commerciales libres de s'engager. Ça, ce n'est pas, ça ne nous concerne pas. Alors, pour ce qui concerne notre ami Sylvain Delitoury, il s'est plaint beaucoup. Considérez cette partie de la République comme un scandale d'or et de fer. Il a parlé de plusieurs sociétés qui sont en exploitation, mais moi je dois lui calmer ses esprits. À Litouri, il n'y a aucune société qui exploite l'or actuellement. Aucune. La société Okimo, qui s'appelle Sokimo actuellement, n'exploite pas. Cette société a la même situation que la Gécamine et Tenkiteng Manganèse. Elle, au moins, elle est en exploration. Mais AGK et Kibali Gold, toutes les sociétés qui ont signé les contrats, mais ils ne sont pas en exploitation. Il faut quand même reconnaître qu'il y a une grande société qui va apparaître bientôt d'ici l'année prochaine, c'est Kibali Gold. Il mettra en place au moins dans les 100 à 200 kilos d'or par mois. Ça, il faut reconnaître. Tout ce que lui, il dit, ce sont des exploitations artisanales.
Artisanales.
Voilà. Lorsqu'il y a une exploitation artisanale, l'État ne se retrouve plus. Donc, moi, j'encourage qu'il puisse se calmer. Il y a l'AGK qui est en exploration. Ils vont entrer en production et l'autre va entrer en production. Je crois que pour ce qui concerne l'avalisation des contrats, c'est ce que je venais de dire. Le Parlement n'a rien à voir pour avaliser un contrat minier, mais non. Un contrat, c'est l'entente entre deux sociétés, deux personnes. Avant, on demandait l'aval du ministre des Mines parce qu'il y avait double tutelle, toutes ces sociétés. Actuellement, il y a seulement les tutelles du portefeuille. Le ministre des Mines n'est pas concerné. Mais lui, c'est la loi, c'est les codes miniers qui le permet à gérer, à suivre les activités, les différents rapports que les sociétés déposent. Mais dire qu'il faut une transparence, la transparence est là. Je sais bien que avant, c'était difficile. Vous connaissez les aventures de Litier, l'adhésion à Litier. Au début, c'était difficile. Les premières années, on a été récalé. Mais actuellement, tout va bien parce que c'est un mécanisme qui a été mal compris au début et les gens ont commencé à comprendre. C'est la même chose que les contrats miniers. Après la révisitation de tous ces contrats, moi, je ne vois pas une société s'aventurer de la même manière. Donc, actuellement, pour toutes nos sociétés, ils savent bien qu'au niveau du ministère, au niveau de la CTCPM, nous avons élaboré un modèle de contrat type qui a été remis, je crois, à toutes ces sociétés. Ils devront les suivre. Je crois que bon, on n'est pas assez inquiété, c'est la situation qui est très 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 mauvaise. Pourquoi? Parce que toi,
oui, mais professeur, parce que l'FMI évoque c'est l'amélioration de la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Selon vous, cela peut passer par quoi? Par quoi cela peut être concrétisé?
Non, les choses sont simples. Qu'est-ce que la banque, qu'est-ce que l'FMI nous demande? Parce que chaque fois qu'il y a un contrat minier signé, il y a une transaction financière qui passe. C'est vrai, si vous devez à quelqu'un, lui aussi doit quand même voir ce que vous devez faire avec. C'est le problème que nous avons eu à expliquer difficilement sur les contrats SICOMINE, vous avez suivi sur les ondes. Mm-hmm. Actuellement, après les grandes explications qui ont été données, ils ont compris. Mais pour les cas présents, il y avait une incompréhension. C'est-à-dire que je crois que nous sommes en train de négocier. Vous allez voir qu'il n'y a rien qui a été caché. C'est une incompréhension. C'est-à-dire que pour les gouvernements, nous, on se disait que les contrats comités est affiché. Parce qu'on nous demandait de donner les contrats. Mais on ne savait pas qu'il y avait une autre transaction, mais qui n'était pas signée, ce qui n'était pas un contrat, mais qui était un PV d'une réunion. Et dès que nous avons affiché les PV de la réunion, mais c'était un retard par rapport au problème qui est. Voilà, pour la question que tu as posée, c'est-à-dire que nous sommes dans la transparence actuellement. Si une société veut s'engager avec une tierce, mais il faudrait d'abord qu'on identifie cette société.
C'est la nature de cette société.
Qu'on identifie si réellement ces messieurs, cette société, montre mon partenaire, a réellement de l'argent. Et là, la FMI, qui est à l'étranger, peut nous aider. Hein? La Banque mondiale peut nous aider à identifier. Parce que les problèmes que nous avons connus, c'est comme par exemple, si vous avez votre femme malade à la maison, vous pouvez vendre la maison moins chère. Et c'est ce qu'on a connu pendant cette période. Actuellement, comme la révisitation s'est passée, mais les gens viennent quand même de moins en moins, mais nous les identifions. Et même avec la Banque mondiale. Je crois que la Banque mondiale et la FMI et la Banque mondiale nous aident à être transparents. Transparent, c'est quoi? C'est tracer s'il y a de l'argent, afficher toutes les informations et associer la société civile, et c'est ce que nous devons faire.
Oui, et cette question de la traçabilité, il y a un auditeur qui a évoqué, Richard, qui a parlé de l'exportation de brut. Voilà. Là, ça fait quand même un problème également. Aujourd'hui, les lots qui partent, on ne sait pas les contrôler, le Sénégal qui n'a pas le cuivre, selon ses propos, et vous revend la même matière à un prix exagéré. Mais voilà, donc comment vous expliquez ça, professeur?
Non, il y a. Là, je peux vous donner quand même une certaine transparence. Actuellement, les minerais à l'état brut, je parle de cuivre, cobalt, il n'y a pas l'exportation des minerais à l'état brut. Le cuivre ou le cobalt est exporté sous forme de concentré, sous forme d'alléage ou sous forme de sel. Les minerais à l'état brut, c'était totalement défendu parce qu'à l'époque, vous vous souvenez bien, tous les minerais allaient en Zambie, les usines se trouvaient en Zambie et l'exploitation se fait comme ça. Mais nous avons le problème de la cassitérite. La cassitérite, les ministres ont demandé à tous ces comptoirs, maintenant il n'y a plus de comptoirs, nous les appelons soit les entités de traitement. Les entités de traitement, il faut transformer, c'est-à-dire séparer les coltans de la cassitérite pour donner la valeur ajoutée aux minerais. Mais fin de fin, il faut nécessairement les usines pour transformer la cassitérite en étain. Mais il y a toujours un problème dont je vous avais parlé la fois dernière, c'est un problème d'énergie à Goma et dans les zones où se trouve la cassitérite. Donc, je crois qu'il n'y a pas encore de minerais à l'état brut qui sortaient. Les diamants, il va me dire que les diamants sortent à l'état brut. Non, mais nous avons instauré le système de la désoxydation. Les diamants doivent d'abord être nettoyés avant de sortir. Mais s'il faut les tailler pour augmenter encore sa valeur, mais nous n'avons pas de taillerie. Je crois que ça, c'est déjà un esprit qui est déjà ouvert. Les gouvernements s'engagent déjà à implanter des tailleries comme on en trouve en Namibie, de manière que notre diamant soit taillé. Mais tous les diamants n'est pas taillé, hein. C'est les diamants des joailleries qui sera taillé.
Voilà, Charles Etakoulézi, Francisco Akikuit et Alpha Alikassi, nous prenons cette deuxième série des auditeurs. Charles, vous êtes avec nous, bonjour. Oui, parlez un peu fort, Charles, parce que là...
Bonjour, je dis bonjour à notre invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capitale.
Vous avez la parole, Charles.
Ok, monsieur Gilles, je voulais juste commencer par ce qu'on est en train de dire, la bonne gouvernance, la transparence que notre invité est en train de parler. Vous savez, la transparence dans des pays développés, c'est faire quoi? C'est diviser les taxes, par exemple, les taxes que la TFM est en train de donner à l'État. Le cas, c'est que nous sommes ici sur place à Polésie où nous avons l'entreprise KCC et d'autres là qui sont connus par notre invité. Est-ce que on est en train de publier les taxes et que le peuple, la population connaît que non, telle société verse des bourses à notre gouvernement, à l'État, tel montant. C'est ce qui est un peu difficile à conclure, que là, il y a la transparence. Moi, ce que je peux encore demander, j'ai été à Kissimi-Manganèse. Comme vous savez, là, à Kissimi-Manganèse, notre ministre de l'Intérieur, il était PDG là-bas à Kolozi. Bon, essayez de lui demander quelle est la situation de Kissimi-Manganèse aujourd'hui. Mais vous parlez toujours de la transparence. Je ne sais pas dire transparence. Vous savez, même la FMI et d'autres banques de développement sont en train de douter sur la gouvernance de notre pays. C'est qu'il n'y a pas de sérieux. Puisque il n'y a pas. Les gens ne sont pas sérieux. C'est ça, en fait.
Voilà. Merci beaucoup, Charles, d'avoir appelé. Francisco, vous êtes à Kikwit. Bonjour.
Oui, moi, bonjour à Radio Capi, bonjour à tout le monde, bonjour à l'invité. Mon inquiétude, c'est d'avoir suivi ce que ce contrat peut représenter comme retombée sur le pays. L'invité a montré que le pays n'aura de retombées que plus tard, parce qu'il n'y a que 20% dans tout cela. Alors, que 20% est plus tard pour que le pays puisse finalement avoir l'outil de production qui lui manquait par la Gécamine, ou que ça sera éternellement un cadeau qu'on fait à ces compagnies pour s'enrichir au détriment du Congo, ou que ne fallait-il pas que le Congo se débatte par lui-même comme c'était aux années 60, où il s'était lui-même doté de l'outil de production, et comme ça il développerait une politique même pour la finale de ces minéraux, et ainsi avoir beaucoup plus de retombées plus rapidement que ce processus de contrat.
Voilà, merci beaucoup Francisco. Vous voulez avoir un peu plus d'éclairage sur le retombé, hein, quand l'invité a parlé de retombé qu'on pourrait, le gouvernement peut recueillir plus tard. Vous souhaitez avoir une précision, hein, sur le plus tard que venait de parler tout à l'heure notre invité. Merci Francisco d'avoir appelé de Kikwit. Alpha, vous êtes à Likasi, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour les auditeurs de la Radio Capi, bonjour à tout le monde.
Oui, vous avez la parole, Alpha.
En fait, moi, je suis au Katanga, je vais parler du cobalt et du cuivre ici au Katanga.
Oui.
Le problème de la transparence, c'est pour le dire. Il y a des entreprises qui ont comme parapluie certaines personnalités politiques de notre pays. L'État n'arrive pas à décontrôler ces entreprises. Et ceux qui travaillent, ceux qui sont en charge de contrôler ces entreprises, n'arrivent pas à faire correctement le travail. Parce qu'il y a des personnalités politiques qui sont parapluies de ces entreprises. Alors, je propose ceci. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que l'État puisse mettre à la disposition de la Gécamine les moyens nécessaires en fait que la Gécamine à lui seul puisse continuer à exploiter les minéraux de notre pays? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que l'entreprise, au lieu de continuer à courir derrière les pauvres populations qui sont en train de se débrouiller dans des dossiers, dans des entrées de dépotoirs de la Gécamine. Au lieu de continuer à courir derrière ces populations, la Gécamine peut continuer à exploiter les camps de TFM qui détenaient à elle seule.
Donc voilà, donc si je comprends bien votre inquiétude. Oui, Alpha, donc.
Même comme il avait fait à l'époque coloniale, après l'indépendance, continuer à faire cela pour que l'État congolais puisse se bénéficier.
Merci beaucoup, Alpha de Likasi. Jean-Jacques, vous êtes à Kinshasa et Papa Louis, vous êtes à Isiro. Jean-Jacques, bonjour.
Bonjour.
Vous avez également la parole.
Oui, merci de m'avoir accordé la parole. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Jean-Jacques, j'interviens en tant qu'environnementaliste.
Oui.
Je pense que j'ai bien suivi la question posée et les autres et d'autres auditeurs qui ont intervenu. Alors, je pense à ce niveau, il y a un problème de la planification. Celui qui m'insulte, qui est votre invité, doit savoir qu'il y a un problème de la planification, il y a un problème de l'expertise, il y a un problème de la transformation. Concernant la planification, ceux qui sont appelés à gérer les ressources naturelles de la RDC n'ont pas la planification, l'expertise de cette richesse que nous avons. Je pense qu'à ce niveau, pour résoudre la question posée, on devrait absolument d'abord réorganiser les services pour qu'on puisse, à la longue, planifier et avoir l'expertise. Quand nous avons la planification et l'expertise, à ce moment, nous pouvons négocier comment transformer nos matières ici sur place.
Voilà, on va accorder la parole à l'autre invité, comme c'est une question d'ailleurs directe qui concerne la cellule de planification. On va lui poser la question, Jean-Jacques, merci. Papa Louis, vous êtes à Issiro, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Et bonjour, les auditeurs. Oui, allez-y, papa Louis.
Ici, dans la ville, il y a plus de 30 de stade de l'or et de Genève et Pâques. Il est retombé pour une petite planification. Je pense que le piste. D'abord, les petits miniers environ.
Voilà, là vous sortez entrecoupé, papa Louis. Peut-être le temps de vous laisser changer la position, on pourrait vous récupérer plus tard. Guy, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, JR.
Voilà, vous avez la parole, Guy.
Ravi vraiment de ce sujet que vous avez choisi sur vos antennes. Ma préoccupation est la suivante. Les contrats miniers, oui, ils sont bien signés, comme l'État congolais peut le constater lui-même, pas nous autres qui sont administrés par celui-ci. Mais ma préoccupation concerne beaucoup plus les entreprises qui sont implantées dans le milieu de la population, qui polluent ces derniers, mais l'État qui a signé les contrats ne revient pas à la charge de sanctionner et de voir comment remédier les cas de la population qui en souffre. En dehors de cela, ôter aussi les parapluies qui, quand il y a des problèmes qui surgissent au sein de ces entreprises qui ont signé le contrat avec l'État congolais, et ces autorités s'érigent en barrière pour dire « Mais monsieur tel, il ne faut pas avancer vers cette société-là, tu sais. »
Voilà, donc vous parlez de des interférences, comme l'a souligné également Alpha Delicati.
Oui.
Voilà.
Il y a des problèmes comme cela. Et si l'État en tient compte, FMI et tous ses alliés qui peuvent nous porter soutien, ils reviendront à nous.
Voilà, merci Guy. Jean Guémena, vous êtes à Guémena, bonjour. Voilà, j'en ai plus en ligne. Professeur Donat, vous avez suivi les uns et les autres. On peut commencer d'ailleurs à répondre par rapport à l'inquiétude de Jean-Jacques, qui a parlé des trois points, la planification, l'expertise et la transformation. Au fait, il évoque comme solution, donc il faut réorganiser certains services du ministère de Mines afin d'arriver à atteindre quand même les objectifs.
Oui, je lui donne quand même raison. Parce que il faut toujours savoir que, parce qu'il parle beaucoup plus de l'environnement minier, et nous avons des services comme le mien qui est ici, mais c'est un service qui n'a pas des antennes dans les provinces. Hein, nous avons un service qui a des compétences, il y a des ingénieurs, toutes les compétences sont là, nous élaborons les textes et tout ça, mais il y a des services de contrôle. Des services de l'État comme la direction des mines, mais toutes ces directions de l'administration des mines ont une seule représentation qui est la division provinciale des mines. C'est là où aussi se pose un problème de compétences, c'est vrai. Nous sommes un pays minier, on devrait quand même, ne fût-ce que valoriser toutes ces divisions, ne fût-ce que retrouver les individualités dans ces services. Ça pose des problèmes. Donc, pourquoi ? Parce que nous devons avoir un service de l'État qui est solide, bien renforcé et capable de gérer correctement les secteurs. Mais il y a toujours un problème.
Parce qu'au niveau de la gestion de creusers artisanaux, le problème ne se pose pas. Ces scams est pratiquement à travers le pays.
Voilà. Mais non, il y a toujours des problèmes qui se posent. Vous savez, on a fait un programme, un très bon programme avec la Banque mondiale et FMI. Parce que moi, je les cite toujours ensemble. Vous savez, les codes miniers ici, les codes miniers actuellement qui a été promulgué par le président de la République en 2002, et nous l'avons travaillé ces codes miniers avec l'assistance des FMI et de la Banque mondiale. Dans ces codes miniers, il fallait renforcer les services de l'État. C'est pourquoi on avait créé cette taxe qui s'appelle les droits superficiels. Les droits superficiels devaient être récoltés par les cadastres miniers. Et c'était cet argent qui devait être cadastre minier à s'implanter dans toutes les provinces. Maintenant, FMI, avec qui nous avons travaillé le code minier, après, qu'est-ce qu'il dit? Deux ans après, il dit non, l'argent ne doit pas passer par les cadastres miniers, il faut que l'argent entre au trésor public. Actuellement, les cadastres miniers ne fonctionnent pas correctement. Même tous nos services, on devait survivre de côte part de ces droits superficiels. Vous voyez, parfois, on nous demande une chose et son contraire. Ça, c'est ça la politique de la Banque mondiale et la politique des FMI. Donc, c'est par exemple l'exemple que je vous ai tout donné tout à l'heure, dans le cadre du litier. On a dit, nous devons compter le nombre de périmètres. Périmètres, c'est-à-dire que les différentes sociétés qui doivent être contrôlées dans le cadre de la transparence. Mais après, on prend maintenant une autre société qui n'est pas dans les périmètres pour nous clouer dessus. Moi, je vois que c'est à peu près la même politique que cette histoire de contrats non affichés. Je crois que nous sommes tous ensemble, c'est un partenaire très 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 important, on ne veut pas s'en passer de FMI, comme vous le savez, leur intervention dans notre budget.
Oui, parce qu'ils ont même reconnu, hein, en disant, bon, ils ont estimé qu'il y a eu des progrès qui ont été accomplis sur le plan économique et financier par le gouvernement congolais. Et le FMI s'est dit même prêt à redémarrer d'autres programmes d'aide et de coopération avec le pays. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la transparence dans la gestion des contrats miniers. Et là, ça relance d'ailleurs le débat sur la révisitation des contrats, parce que d'aucuns l'ont souhaité d'ailleurs. On dit officiellement, il faut que la population soit au courant des entreprises qui ont été retenues, ou les contrats qui ont été reconduits, les contrats qui ont été annulés. Il faut que tout soit clair.
Moi, j'en profite pour mettre une copie du document, et tout à l'heure, je vais faire un effort pour nos amis qui sont à l'extérieur, je vais afficher les résultats de la révisation de tous ces contrats qui ont été faits. À ce moment-là, je crois que tout le monde entrera en possession de ces documents. Et je ferai encore plus pour envoyer ces documents dans toutes les provinces au niveau de la société civile. Il faut que la population puisse comprendre. Parce que lorsqu'on parle d'un contrat, un contrat signé, les gens sous-entendent toujours qu'un contrat, c'est déjà de l'argent. Mais non! Un contrat, c'est-à-dire que la personne avec qui vous avez signé l'argent, il doit prendre les droits miniers, votre titre minier, il doit aller dans une banque. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas de garantie. Mm-hmm. Lui, au moins, il a la garantie, il va aller dans une banque, il vient avec l'argent et vous commencez à exploiter. Mais, malchance pour nous, nous avons connu des contrats des aventuriers. Il prend votre titre minier, parce que ça a une grande valeur. Il se représente en bourse, on lui donne l'argent, au lieu de revenir sur...
Et il fait non, voilà, on va accorder juste 30 secondes à Étienne qui est à Lubumbashi, avant de conclure, professeur Donat. Étienne, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour.
Voilà, on ne saura pas vous accorder plus d'une minute. Étienne, en 30 secondes, quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation repose sur la question de la transparence liée au secteur minier.
Mm-hmm.
Parce qu'en fait, nous sommes un pays scandalement riche sur le plan... Mais nous n'arrivons pas, au niveau de la gouvernance, à construire une conscience nationale en termes de rigueur de ce que nous avons comme richesse, où les difficultés que nous rencontrons dans nos anciennes entreprises de fractions minières, qui pour la plupart d'entre elles manquent l'outil de production. Il aurait fallu réellement une conscience manifeste dans le chef de nos dirigeants, qui doivent au besoin chercher comment capitaliser tous les différents contrats que nous signons avec les filiales des multinationales qui, en l'occurrence, nous savons bien que les multinationales ne visent que leurs intérêts au détriment des populations sur lesquelles leur sol leur permet de bénéficier de ces richesses. Nous ne sentons pas cela dans le chef de notre gouvernement qu'au travers des différents contrats qu'il signe, il y a possibilité dans une perspective lointaine, à long terme ou à moyen terme, pour qu'on commence à relancer ne fût-ce que quelques sociétés nationales qui peuvent combler cet état de situation que nous rencontrons aujourd'hui avec les différents contrats signés que les populations ne ressentent même pas les
retombées. Voilà, merci Étienne. On a pu accepter ça, Étienne. Ce n'est qu'une partie remise. On pourrait vous prendre peut-être dans une prochaine émission si on reviendrait encore sur les contrats miniers. Merci Étienne d'avoir appelé. Professeur Donat, on va conclure cette émission en une minute avec vous par rapport à toutes ces inquiétudes.
Mais il faut quand même reconnaître la réalité est là. lorsque nous avons fait la révision des contrats, il y a des contrats qui ont démarré et d'autres qui sont en train de démarrer. Parce que démarrage pour moi c'est quoi? C'est lorsque la société entre en production. L'État ne, la population ne sera contente. L'État ne peut se retrouver que lorsque la société est en production. Si je prends globalement tous les contrats que nous avons révisités, moins de la moitié sont en production. Donc vous comprendrez bien. Et l'exemple frappant c'est Tenke Fungurume. D'ici 2014, l'État va gagner sa dividende parce que Tenke Fungurume entrera en bénéfice. Donc, la dividende de l'État de 20%, c'est quand même, ce sera énorme. Donc, là, c'était un cas particulier. Nous avons la société KCC, il y a plusieurs sociétés qui, il faut compter que d'ici 10 ans, la population devra que se retrouver. Mais concernant les sociétés de l'État, là, c'est le souci même de l'État actuellement. C'est pourquoi on demande à ce que ces sociétés puissent bénéficier de leurs royalties. Ouais. C'est de manière qu'ils puissent commencer aussi l'exploration et entrer en production. C'est le cas de la GECAMINE et des autres sociétés. Je crois que la démarche est en cours et c'est ça ma conclusion.
Professeur Dona Kabanda, vous êtes le coordonnateur de la cellule technique de coordination et planification minière au ministère des Mines. Merci d'avoir été des nôtres.
Merci Serge, merci beaucoup.
Voilà, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci également à Willem Lungamba qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Poutou et Pierrot et Lamegi l'ont réalisé et Gilles Lungembo vous l'a présenté et coordonné sous la supervision de Nicole Gagar. Écoutez cette émission sur www.radiocapi.net. En RDC, la réforme de l'administration publique est en cours depuis 2002 et pour certains observateurs, cette mise en ordre de l'appareil administratif est une nécessité pour le développement économique du pays. C'est dans ce cadre-là que s'inscrit notamment l'implantation prochaine d'une école d'administration, ENA, qui formera des hauts cadres qualifiés pour gérer la chose publique. Pensez-vous que cette réforme pourrait susciter l'émergence d'un nouveau type d'agent de l'État? C'est la question du débat de demain. Prenez déjà rendez-vous avec nous au 0 81 890 63 15.